Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et le Journal de Montréal. Au programme, 5 $ pour agrémenter vos nuits blanches. Le ministre Barrette exige que l'Agence de Montréal fasse demi-tour. Le gestionnaire de la santé, des boucs émissaires. La CAQ veut scinder le ministre de la Santé. Et image de soi d'un excès à l'autre. Bonne écoute.
Cinq polars pour agrémenter vos nuits blanches. Un texte de Michel Belair, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir. Le cuisinier de l'Alcyon. Andrea Camilleri, Fleuve Noir, en librairie. Publié en italien quelques mois avant la mort de son auteur en 2019, ce roman a tout du scénario de film de gangster. En fait, Andrea Camilleri l'avait d'abord écrit pour un projet de film, puis a décidé de le reprendre en musclant un peu son personnage du commissaire Salvo Montalbano. Tout s'amorce d'ailleurs fort mal pour le commissaire quand le questeur veut le forcer à prendre ses congés accumulés et à disparaître tout simplement du commissariat pour un minimum de 10 jours. Le tout sur fond de grève et de conflit social, alors que, dans une usine de Vigata, un ouvrier désabusé s'immole sur son lieu de travail. Montalbano rechigne, puis accepte, et décide de passer du temps sur le continent avec Livia, sa fiancée. Jusqu'à ce que tous ses assistants soient eux aussi sortis du commissariat. Que se passe-t-il? Un indice. Le FBI est impliqué dans l'affaire. Un peu tiré par les cheveux, cette enquête est néanmoins une des plus drôles et des plus dangereuses de Montalbano. Cupidité. Déon Meyer, Gallimard, Série Noire, en librairie. Les choses ne sont jamais simples pour le capitaine Benny Grisel, qui combat toujours son alcoolisme, et son partenaire Vogue Cupido, tous deux membres de l'unité d'élite des Hawks. D'autant plus qu'ils viennent d'être rétrogradés pour ne pas avoir obéi aux ordres dans une affaire précédente. Les voilà donc forcés de faire profil bas tandis qu'on les exile dans une banlieue chic du Cap où ils enquêtent sur la disparition d'un brillant étudiant en informatique. Mais le hasard fait en sorte qu'il se retrouve encore à traquer la corruption de l'État et les ripoux en tout genre. Pour compliquer les choses davantage, un homme d'affaires multimillionnaire et présumément escroc disparaît lui aussi. Surprise! Toutes ces affaires se croisent et les deux enquêteurs se retrouvent dans un assaut final aux allures de films d'action américains. Une triple histoire menée de main de maître par Déon Meyer et ces deux policiers incorruptibles qui ne lâchent jamais prise. Une saison pour les ombres. R.G. Ellery, Sonatine, en librairie. Cette nouvelle histoire de R.J. Ellery s'amorce au Québec. Quelque part à Montréal, il y a une dizaine d'années, Jack Devereaux est rattrapé par son passé alors qu'il reçoit un appel de Jasperville, qu'il a quitté depuis des lunes. Son jeune frère est accusé de tentative de meurtre dans ce coin perdu autour d'une mine de fer. Quelques décennies plus tôt, on avait retrouvé là le corps d'une jeune ado déchiquetée par les bêtes sauvages qui hantent cette contrée hostile. C'était du moins la version officielle jusqu'à ce qu'on retrouve une autre jeune fille dans le même état. Devereaux se voit forcé de replonger dans cet enfer, l'assassin ayant visiblement recommencé à sévir. Dès qu'il y remet les pieds, il comprend que plusieurs préfèrent voir durer le mensonge qu'affronter la réalité. La quatrième de couverture précise qu'Ellery retrouve ici les accents de « Seul le silence », son premier livre traduit en français qui a fait de lui un incontournable. Ça promet. L'espion qui aimait les livres. John le Carré, Seuil, en librairie. C'est cette histoire, tout en demi-ton, que terminait John le Carré au moment de sa disparition, il y a un peu plus de 2 ans. L'intrigue est captivante, comme dans tous les romans du vieux maître, mais c'est surtout la qualité inimitable de son écriture qui frappe d'abord ici. Quelle maîtrise! Quelle élégante façon de dessiner un personnage en 2 ou 3 lignes, puis d'élargir les perspectives une petite touche à la fois. Un bonheur! Dans ce livre, tout en nuances, tout en non-dit, et même si on y dit beaucoup de choses, les apparences sont toujours trompeuses. Un peu comme le climat du Norfolk, où se déroule l'essentiel de l'action. C'est en fait une histoire classique de taupe ayant infiltré les services britanniques et qui est si imbriquée dans son organigramme secret qu'il est même étonnant qu'on en ait soupçonné l'existence. Un livre étonnant, qui témoigne d'une maîtrise inégalée et d'une élégance, on l'a dit, qui ne se porte plus guère. Les Agneaux de l'Aube, Steve Laflamme, Libre Expression, 16 février. Malgré les grandes qualités d'écriture de son géniteur, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec le personnage de Xavier Martel, le détective privé au cœur des précédents romans de Steve Laflamme. Désolé. Il n'est pas du nouvel opus du solide auteur de polar qu'est devenu Laflamme, puisqu'ici, ce sont le lieutenant-détective Guillaume Volta et Frédéric Santinelli, professeurs de littérature, qui mènent l'enquête. Ils travaillent à résoudre une énigme tordue à partir d'une lettre trouvée sur une scène de crime dans Charlevoix. La lettre fait référence à une série de meurtres rituels que la police nommera « les meurtres de l'aube », inspirés par l'œuvre du sinistre Aleister Crowley. On devine que la flamme, qui aime bien taquiner les limites, va s'amuser ici à les franchir, comme à l'habitude. D'autant plus que Santinelli traîne un lourd passé, que l'affaire fait ressurgir. C'était 5 polars pour agrémenter vos nuits blanches, un texte de Michel Belair, paru le 21 janvier 2023 dans Le Devoir.
Le ministre Barrett exige que l'agence de Montréal fasse demi-tour. Un texte de Mélanie Loisel, paru le 1er octobre 2014 dans Le Devoir. Le premier ministre Philippe Couillard et le ministre de la Santé Gaétan Barrett ordonnent à l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal, ASSS, de renoncer aux compressions envisagées dans les services aux plus démunis. Comme Le Devoir l'a notamment révélé le 29 septembre 2014, l'agence envisage d'effectuer des compressions de 9,1 millions de dollars dans les soins de santé mentale, de 8,8 millions dans le soutien à l'autonomie des aînés et de 2,3 millions dans l'aide aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. Au total, la SSS prévoit de retrancher plus de 87 millions pour répondre aux exigences du gouvernement de redresser les finances publiques. En apprenant dans les médias le plan de réduction de l'ASSS, le premier ministre Philippe Couillard a indiqué qu'il était inacceptable que l'agence montréalaise fasse des compressions aux dépens des personnes vulnérables. Il n'est pas question pour nous d'accepter ce genre de scénario de quelque organisme public que ce soit, a-t-il dit. Le ministre Barrett a affirmé, pour sa part, que les compressions de l'agence ne correspondent pas aux objectifs d'optimisation qu'il a fixés dans le réseau de la santé. Il a soutenu qu'il avait clairement demandé dans ses directives de ne pas couper dans les services, même s'il doit y avoir une diminution de personnel. Une coupure de service, ce n'est pas acceptable et ça vaut autant pour Montréal que pour le reste de la province, a-t-il affirmé en rappelant que Montréal reçoit déjà des sommes supplémentaires en raison de sa population et de sa situation socio-économique. Cela dit, par-dessus ça, parfois il y a des coûts qui sont plus grands et on demande de l'optimisation à Montréal, ce qui fait donc qu'il y a des choses qui sont réduites. Mais où l'agence devra-t-elle couper si elle ne peut toucher aux services alors que le gouvernement, lui, exige toujours de faire des compressions de l'ordre de 100 millions? La direction de l'ASSS a refusé de commenter la situation en précisant qu'elle attend d'avoir plus d'informations et d'échanges pour avoir le portrait global. Perdu le contrôle. À Québec, les partis d'opposition ont par contre vivement réagi aux éventuelles compressions dans les services aux plus démunis. Le chef intérimaire du Parti québécois, Stéphane Bédard, considère que le gouvernement Couillard a perdu le contrôle. Ils ne savent plus ce qui se passe sur le terrain. Ils ne savent pas les conséquences des décisions qu'ils prennent. Et ils disent « ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des fonctionnaires », a-t-il noté lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. La députée de Québec solidaire, Françoise David, constate aussi que le gouvernement Couillard ne semble pas réaliser l'impact de ses compressions sur la population et les plus vulnérables. Nous ne pouvons pas croire qu'à chaque fois le premier ministre, ses ministres, ne savent pas. Jusqu'où iront-ils pour atteindre le déficit zéro à tout prix? A-t-elle demandé. La présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, Carole Dubé, estime que le recul partiel du gouvernement Couillard est la moindre des choses, d'autant plus que le ministre Barrette était au courant depuis l'été 2014 des compressions à venir dans les services à l'ASSS. Le ministre se réveille bien tard. Les compressions à Montréal ont été annoncées au conseil d'administration de l'agence en juin. Si ce n'était pas sorti dans les médias, le ministre serait-il intervenu? Questionne-t-elle en ajoutant que le ministre a failli à sa mission de protéger les plus vulnérables. Le premier ministre Couillard soutient plutôt que cet épisode démontre l'urgence de se débarrasser d'une partie des structures de gestion du système de santé pour prendre les ressources et les donner aux patients. La semaine dernière, le ministre Barrette a déposé le projet de loi 10 qui vise à abolir 18 agences de santé régionales et à fusionner 180 services administratifs pour n'en conserver qu'un seul par région. C'était... Le ministre Barrette exige que l'Agence de Montréal fasse demi-tour. Un texte de Mélanie Loisel, paru le 1er octobre 2014 dans Le Devoir. Les gestionnaires de la santé, des boucs émissaires. Un texte de Carole Tramp, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Dans le conflit qui sévit à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il semble que l'on ait encore une fois pansé la plaie avec un diachylon et simplement tassé la gestionnaire en guise de règlement. C'est à croire que les défis auxquels le réseau de la santé et des services sociaux fait face, la pénurie de main-d'œuvre, le cloisonnement des ordres professionnels, l'image négative projetée par les médias, le manque de collaboration des syndicats, les innombrables employés en absence maladie et le volet politique omniprésent, pour ne nommer que ceux-là, reposent principalement sur le dos de ces gestionnaires. En tout cas, c'est le message qui a été envoyé haut et fort, et c'est malheureusement celui que les gestionnaires de la santé ont reçu. Ils n'ont pas une cote populaire favorable, et cela s'avère bien pratique pour plusieurs. Connaître leur réalité est cependant important. Ils sont présents et s'intéressent aux soins et services offerts à la population. Ils sont engagés, collaboratifs et dévoués à leur organisation. Ils sont sensibles à l'évolution de leurs équipes. Ils travaillent dans l'ombre pour que tout roule. Mais ils ne sont pas le département des miracles. L'attrait de la fonction de gestionnaire en santé a considérablement et dangereusement diminué avec le temps. Pourquoi? Parce que les conditions de travail s'effritent de plus en plus, surtout depuis la dernière décennie. Parce qu'on demande aux gestionnaires de faire toujours plus avec toujours moins. Parce qu'on aime leur casser du sucre sur le dos. Parce que la reconnaissance à leur égard est plus que laconique. Tout cela contribue au maintien du climat malsain qui règne dans le réseau. Volonté politique et questionnement collectif. Lorsqu'un problème survient, nous répétons toujours les mêmes gestes en espérant des résultats différents. On applique des solutions superficielles sans jamais sérieusement réfléchir aux façons de faire autrement. On omet de débattre des questions de fond que la société québécoise est en droit de se poser devant la répétition des crises dans le réseau. Or, faire autrement implique une volonté politique, notamment de véritablement décentraliser les pouvoirs décisionnels et d'augmenter l'influence des organisations et de ceux et celles qui les gèrent dans le système, et un réel désir de collaboration de la part de toutes les parties. Il importe d'ailleurs d'améliorer les conditions de travail du personnel de la santé, y compris celles des gestionnaires, afin d'attirer la relève et de garder nos ressources humaines en santé. Le réseau souffre grandement et un regard neuf est nécessaire pour qu'on évite de foncer dans un mur. C'est urgent. En tant que citoyens, contribuables et usagers du système de santé, nous devons nous demander si nous avons encore les moyens de nos ambitions. Doit-on réviser l'offre de nos organisations socio-sanitaires? Sommes-nous prêts à modifier ou à délaisser certains soins et services qui ne cadrent pas avec nos moyens actuels? Comment peut-on faire autrement pour que la population reçoive des soins de qualité? Comment préserver le système public de santé et quels sont les compromis nécessaires à sa pérennité? Ainsi, j'avance que nous sommes encore bien loin de ce qui est nécessaire au dénouement de la crise à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Prendre conscience de la situation d'ensemble est la première étape menant vers des actions concrètes et des solutions durables. Autrement, nous ne sommes qu'à l'aube d'une longue série de déplacements de gestionnaires, boucs émissaires. C'était « La CAQ veut scinder le ministère de la Santé », un texte de Isabelle Porteur, paru le 18 août 2022 dans Le Devoir. La CAQ veut scinder le ministère de la Santé. Un texte de Isabelle Porteur, paru le 18 août 2022 dans Le Devoir. La coalition Avenir Québec propose de scinder la structure du ministère de la Santé et des services sociaux en deux, en créant une agence responsable des opérations sur le terrain. Une façon, promet le parti, de rendre le système plus performant et plus humain. Le ministre Christian Dubé suggère ainsi de confier à cette future agence de la santé le suivi quotidien des opérations du réseau afin de permettre au ministère de se concentrer sur les orientations, l'évaluation et le budget. On veut faire en sorte qu'il y ait moins de bureaucratie, moins d'intervention du ministère, a-t-il déclaré mercredi lors d'une annonce préélectorale dans un hôtel de Québec. Plus humain, plus efficace, pouvait-on lire sur une affiche placée devant lui. On veut moins de décisions dans les tours de bureau et plus de décisions sur le terrain. Christian Dubé. Un tel système, promet M. Dubé, permettrait de décentraliser le réseau et de faciliter la réalisation du plan santé qu'il a présenté plus tôt en 2022. On veut moins de décisions dans les tours de bureau et plus de décisions sur le terrain, a-t-il dit. La structure des centres intégrés de santé et de services sociaux, CI3S, ne serait pas touché par une telle réforme. Si la réforme se réalise, les CI3S devront toutefois se rapporter à cette nouvelle agence. Moins de sous-ministres en vue. Le gouvernement Legault avait été mis dans l'embarras en mars 2022 quand le Journal de Québec avait révélé que le ministère de la Santé comptait désormais 16 sous-ministres, une sous-ministre et 15 sous-ministres adjoints, soit 6 de plus qu'en 2018. Christian Dubé affirme que la création d'une agence permettrait de réduire le nombre de sous-ministres adjoints au sein de son ministère. Ceux dont la mission relève davantage des opérations y seraient transférés et y jouiraient d'un autre statut de cadre. M. Dubé ne s'attend toutefois pas à ce que le geste génère des économies. Le ministre ne s'en est pas caché. Cette réorganisation vise notamment à alléger la tâche de la sous-ministre Dominique Savoie, de qui relèvent à la fois les 15 sous-ministres adjoints et l'ensemble des PDG des CI3S. C'est d'ailleurs Mme Savoie qui a suggéré à Christian Dubé de réorganiser le ministère de cette façon dans un rapport déposé en juin 2022. Priorité critiquée. Les autres formations politiques ont accueilli ce plan avec scepticisme. Un autre plan de la CAQ qui passe à côté du vrai problème. Les soignantes qui quittent le réseau et ne veulent plus y revenir, a réagi le porte-parole en santé de Québec solidaire, Vincent Marissal. Des solutions, il y en a. Par exemple, abolir le temps supplémentaire obligatoire et mettre fin aux agences de placement en santé. Mais la CAQ n'a pas le courage de le faire. Dans la même veine, les libéraux n'ont pas manqué de railler l'annonce du 17 janvier 2022. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pour la CAQ, la priorité absolue en santé, c'est de revoir l'organigramme du ministère. À noter sur les réseaux sociaux, le porteur du dossier au PLQ, Moncef Deradji. Les péquistes, eux, ont rappelé que la CAQ n'avait pas respecté sa promesse passée de réduire à 90 minutes le temps d'accès à un médecin à l'urgence. Avant de prendre de nouveaux engagements en santé, est-ce possible de vérifier si celui-ci, qui a été pris lors de la dernière élection, a été réalisé par la CAQ? A demandé le député Pascal Bérubé sur Twitter. C'était « La CAQ veut scinder le ministère de la Santé », un texte de Isabelle Porteur, paru le 18 août 2022 dans Le Devoir. Image de soi, d'un excès à l'autre, un texte de Joseph Facal, paru le 5 janvier 2023 dans le Journal de Montréal. Lisez attentivement avant de grimper au rideau, s'il vous plaît. Je fais autant de nuances qu'il est possible d'en faire en 500 mots. Les bonnes intentions conduisent souvent trop loin. Fait. Je me demande si notre rapport au poids corporel n'en est pas devenu un bel exemple. Je suis bien d'accord qu'il est cruel et méchant de se moquer des personnes de forte taille. Je précise, au cas où vous vous poseriez la question, que j'ai eu des blondes de divers formats et que je les ai toutes aimées et respectées. Riez si vous voulez. Nous savons que l'idéal de minceur est un stéréotype moderne. Pendant la Renaissance, être belle ou beau, c'était être bien en chair. Nous savons que les antilopes, photoshopées, des magazines s'astreignent à des modes de vie déments et souvent néfastes pour leur santé. Nous savons que l'industrie des régimes est un racket peuplé de profiteurs et de charlatans. Nous savons que l'hérédité joue un rôle et qu'un contrôle total et permanent est pratiquement impossible. Est-il même nécessaire de rappeler que cette pression hallucinante s'exerce 1 milliard de fois plus sur les femmes que sur les hommes, et depuis qu'elles sont fillettes? De grâce, n'enfoncez pas de portes ouvertes en me redisant cela. Je le sais. Mais il y a un « mais », ici un « mais » massif. Notre époque, on le sait, carbure à l'estime de soi. On connaît le discours et j'y souscris pour l'essentiel. Chacun a droit au respect. Ne nous fixons pas des objectifs irréalistes. Ne nous laissons pas dominer par les stéréotypes sociaux. Je répète, je souscris à cela. Pour ne prendre qu'un exemple, je n'ai aucun problème avec les nouveaux mannequins, hommes ou femmes, de forte taille. Mais ne sommes-nous pas en train de basculer de la non-condamnation à l'acceptation sociale puis à la célébration irréfléchie? Voyez le nombre ahurissant d'articles et d'émissions qui, justement au nom de l'estime de soi et du refus des stéréotypes, versent dans l'excès contraire. Je me demande parfois, pour le dire d'une formule délibérément tranchante, si nous ne basculons pas d'une grossophobie cruelle à une grossolatrie jovialiste. L'estime de soi ne suffit pas à congédier la science. Certes, la science ne comprend pas encore tous les mystères du poids corporel, mais nous savons qu'un fort excès de poids augmente les risques de diabète, d'arthrose, de faire un AVC, d'avoir des problèmes cardiovasculaires, de développer divers types de cancers, en plus de réduire l'espérance de vie. Nous savons aussi que la sédentarité et la mauvaise alimentation, sans tout expliquer, jouent un rôle indéniable. Des mesures. L'estime de soi, je veux bien, mais faut-il s'éloigner de la dictature de la minceur pour verser dans la négation de vérités bien documentées? Jacques Grandmaison demandait jadis « Pourquoi sombrons-nous si souvent dans la démesure ?» Terrible question. C'était « Image de soi d'un excès à l'autre », un texte de Joseph Facal paru le 5 janvier 2023 dans le Journal de Montréal.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Suzanne Beauchamp et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.